Avec tout, je vous invite à ouvrir vos Bibles ce matin à 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, pas Romains 12, ça vous surprend peut-être, mais je vous expliquer pourquoi. Alors, comme vous le savez, ce matin, nous continuons une étude dans Romains 12, d'accord, sur les dons spirituels. Les dons spirituels, je crois que c'est mon 34 ou 35e message dans Romains, et là, c'est mon 4e message sur les dons spirituels. Et nous avons déjà fait 3 messages dessus. Et aujourd'hui, nous arrivons sur un thème intéressant, sur ce que j'appelle les dons controversés, ou aussi appelés les dons miraculeux, ou aussi appelés les dons temporaires. Et alors, je vais à 1 Corinthiens 12 parce que le don des langues, et aujourd'hui, nous allons regarder qu'un don, le don des langues, bon, avec interprétation des langues. Et la semaine prochaine, nous allons continuer, d'accord, avec le don des miracles et le don des guérisons. Il y avait trop à dire aujourd'hui, donc je vais faire qu'un don aujourd'hui. Mais il apparaît dans 1 Corinthiens 12 et le verset 10, d'accord. Alors en fait, il commence, parce qu'il y a 4 listes de dons spirituels dans la Bible, Romains 12, on a regardé, 1 Corinthiens 12, à partir du verset 8, en effet, l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, et maintenant regardez, et à un autre la diversité de langues, et à un autre l'interprétation des langues. Alors le sujet des langues est tellement d'actualité aujourd'hui, parce que vous savez que le monde évangélique est assez divisé sur ce don, il m'a semblé judicieux de l'aborder tout seul aujourd'hui, d'accord? Alors, avant d'aborder le sujet, j'aimerais vous expliquer mon arrière-plan personnel. Je pense que vous devez comprendre mon contexte pour pouvoir comprendre comment je vais aborder ce sujet aujourd'hui. Alors, je recule un petit peu dans l'histoire. Lorsque j'avais 19 ans, et j'ai rencontré Jésus-Christ personnellement dans une rue à New Delhi en Inde. J'étais hippie à l'époque, vous connaissez mon histoire. Je ne connaissais absolument rien de la Bible. Quelques jours plus tard, donc je venais de rencontrer Christ le 2 novembre 1976. Quelques jours plus tard, je rencontre d'autres chrétiens à Goa en Inde et ils m'ont invité de vivre avec eux pour pouvoir grandir dans ma foi. Ben, j'étais absolument ravi. Ils étaient très zélés pour Christ, pour sa parole. Il me faisait mémoriser énormément de versets, donc c'était à grosse dose. Hein. Je lisais beaucoup la Bible, je mémorisais beaucoup de versets. C'est comme si je buvais la source. C'était absolument génial. C'est comme si je buvais le jet d'eau tous les jours. D'accord ? C'était une période merveilleuse pour moi. Ces chrétiens m'ont beaucoup, beaucoup aidé dans mes premiers pas avec Christ. Alors, les réunions de prière étaient particulièrement intéressantes. Tout le monde priait dans des paroles qui, pour moi, étaient incompréhensibles. Il disait des trucs, j'y comprenais rien. Alors j'écoutais, mais moi je priais dans mon cœur. Et on me disait qu'il priait dans un autre langage. On me disait qu'il priait dans une langue angélique. J'ai dit ok, super. Quelques jours plus tard, ces chrétiens m'ont expliqué qu'il y avait quelque chose que je devais comprendre sur la Bible, ce qu'ils appelaient le baptême du Saint-Esprit. Alors de nouveau, j'ai dit « Ok, moi je ne connaissais rien », je dis « Super ». Alors ils m'ont montré Actes chapitre 2, que je n'avais jamais vu de ma vie, et ils m'ont dit que je devais maintenant être baptisé du Saint-Esprit, et que le résultat serait que moi aussi je parlerais en langue comme eux, et comme les chrétiens dans Actes 2. Ben, j'ai dit « Super ». Pour moi les choses étaient simples, si c'était dans la Bible, c'est ce que je voulais. C'était pas dans la Bible, bien sûr, je voulais pas. Moi, la Bible, c'était, depuis les quelques jours que je connais le Seigneur, c'était mon truc. J'aimais la Bible. Donc, tout me semblait cohérent. Je ne voulais qu'être rempli pleinement en Christ, rempli du Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit. Je n'avais aucune raison de douter ce qu'ils me disaient. Alors là, sur la plage de Goa, ils ont prié pour moi. Et là, j'ai demandé au Saint-Esprit de me baptiser. Et là, ils m'ont encouragé de parler en langue. Alors, j'ai commencé à parler en langue. Comme eux, ils étaient ravis. Mais quelques jours ont passé, et là, je vous partage vraiment la vérité. Hein. Honnêtement, je me demandais s'il y avait quelque chose de pas tout à fait juste en moi. Car je me rappelle très bien ce que je ressentais. C'est-à-dire que je ne ressentais pas du tout cette puissance particulière suite à cette prière pour le baptême du Saint-Esprit. Et honnêtement, lorsque je parlais en langue, je faisais comme eux, j'avais plus l'impression que je me forçais de parler en langue qu'autre chose. Je n'avais honnêtement pas l'impression que je me faisais porter par le Saint-Esprit qui était supposé agir en moi et qui était supposé me faire parler en langue. Pourtant, je savais que j'étais vraiment converti. Je savais que Jésus-Christ, quelques jours avant, était rentré dans mon cœur. J'étais pardonné de mon péché. J'étais sûr que j'avais la vie éternelle, que si je mourais ce soir-là, j'irais au ciel. Ça, c'était sûr et certain. Je savais que j'étais converti. Mais honnêtement, j'avais l'impression que dans ce truc qui s'appelait le parler en langue, que je me forçais pour être comme eux. Car si je ne parlais pas en langue, alors je me disais qu'ils concluraient sans doute que je n'avais pas été baptisé dans le Saint-Esprit, qu'ils feraient de moi peut-être un peu un sous-chrétien. Donc, je parlais en langue, mais honnêtement, je le faisais plus pour copier ces gens et pour rester dans le groupe que par motivation de l'esprit. Du moins, ça c'est ce que je ressentais dans mon cœur. Alors 3 semaines plus tard, j'ai quitté ce groupe parce que je devais rentrer aux États-Unis. Enfin, ici à Genève en premier, donc je suis rentré à Genève. Un mois plus tard, j'étais de nouveau aux États-Unis. Et quelques mois plus tard, j'étais, je ne me rappelle même plus pourquoi, à Princeton, au New Jersey. Et là, j'ai cherché une église et j'ai trouvé une église assemblée de Dieu. Une merveilleuse petite église, ils m'ont de nouveau beaucoup aidé dans le Seigneur, dans ma marche chrétienne, mais de nouveau, à ces moments de culte et de prière, tout le monde commençait à parler en langue. Et honnêtement, je ne ressentais pas dans mon cœur la même chose qu'eux. Alors je me disais qu'il y avait un problème en moi. Il y avait peut-être un truc qui ne jouait pas. Alors c'est là que certains chrétiens m'ont expliqué qu'il y avait deux optiques dans le monde évangélique sur les dons spirituels. Il y avait ceux qui pensaient, comme mes amis en Inde et aussi à Princeton, que le baptême du Saint-Esprit était une seconde expérience pour les chrétiens après la conversion et qui résultait dans le parler en langue, pour la plupart. Il y avait aussi ceux qui pensaient que le parler en langue n'était plus quelque chose d'actualité de nos jours et que le parler en langue qui se pratiquait dans les églises ne sont en fait pas nécessairement le parler en langue qui existe dans la Bible. Alors là, j'étais maintenant dans la confusion la plus totale. Alors je me suis dit, il faut que je potasse ce sujet, quoi. Il faut que j'examine la parole de Dieu pour essayer de me trouver une opinion, pour essayer de comprendre ce truc. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Alors je vais aujourd'hui vous donner les conclusions de mes réflexions qui durent depuis maintenant plus de 30 ans, hein, où j'ai réfléchi beaucoup à ça. Et bon, je ne suis pas un expert, je ne suis pas un pro. J'essaye, comme tout le monde, de lire des livres. Il y a beaucoup de livres sur le sujet. Ça, si vous voulez des livres, il y a tout. Hein, donc là, on peut tous trouver les mêmes informations. Moi, j'essaie de réunir les informations qui me semblent cohérentes et je vous les livre. D'accord? Alors il y a Bon, déjà là, on n'est pas tous d'accord, mais disons, il y a globalement 4 dons controversés, d'accord, sur la liste des 11 ou 13 dons, 13 plus 2, disons, ou plus 4. Donc, enfin, ça dépend comment on liste les dons, d'accord. Bref, il y a 4 dons controversés, langue, interprétation de langue, miracle et guérison, d'accord. Et le but aujourd'hui n'en a aucun cas de parler mal de mes frères et sœurs charismatiques. Souvent, le terme charismatique, si vous ne connaissez pas, est donné aux chrétiens évangéliques qui connaissent Christ, mais qui ont une perspective comme quoi ces dons sont encore pour aujourd'hui, d'accord ? Et les non-charismatiques, ou les classiques, ou les traditionnels, ou les conservateurs, d'accord ? Ce sont les chrétiens évangéliques qui sont peut-être pas aussi sûrs que ces dons sont encore pour aujourd'hui. Alors j'aimerais dire que j'ai beaucoup de frères et sœurs charismatiques, je les apprécie énormément, ils aiment le Seigneur, ils m'ont beaucoup aidé dans ma vie à grandir, donc je les remercie pour cela. Ils sont zélés pour Christ, ils ont un zèle pour évangéliser, zèle pour la louange, même si sur certains points théologiques, nous n'avons pas la même perspective. Alors moi, je connais beaucoup de pasteurs charismatiques à Genève, je m'entends très bien avec eux. Donc, tout ce que je vais dire aujourd'hui est vraiment dans l'amour, c'est pour essayer de clarifier ce qu'il peut être une confusion pour certains là-dessus. Alors, dernière chose avant d'entamer l'étude, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Aucun problème, d'accord ? Vous avez le droit d'être pas d'accord avec moi, mais j'espère que ceci va aider à clarifier ma position. Alors, pour nous aider, comment est-ce qu'on va procéder ? Alors moi, je propose une je propose comme ceci. Je vais poser une série de questions auxquelles je vais répondre. 14 questions, d'accord? Alors, il faudra vraiment qu'on bouge, alors je vais quand même enlever ma montre. Mais c'est bien, on a le repas qui nous attend, donc on n'est pas hyper pressé, d'accord? 14 questions, et bien sûr, on ne peut pas tout voir dans les 45 minutes qu'on a, mais on va effleurer le sujet et au moins donner ce que je pense être l'essentiel. D'accord ? 14 questions. Alors, numéro 1. Quelle est la nature du parler en langue ? Quelle est la nature ? C'est quoi le parler en langue ? Alors, la meilleure manière de comprendre la nature du parler en langue, selon moi, c'est d'aller voir le premier cas du parler en langue dans la Bible. Allons à Actes chapitre 2. Commençons dans Actes chapitre 2. Alors, si vous n'êtes pas chrétien, ou bien si vous êtes tout nouveau chrétien, là, vous allez apprendre un tas de trucs aujourd'hui. Peut-être que vous ne savez même pas que ça existait. Ben, c'est comme ça. Il y a des tas de trucs super intéressants dans la Bible. Et le don des langues, c'est un truc super intéressant dans la Bible. Regardez. Acte 2, 1. Le jour de la Pentecôte. Donc, Jésus, maintenant, est déjà ressuscité. Il est parti et il a envoyé le Saint-Esprit. D'accord ? Et maintenant, le Saint-Esprit arrive. Pour la première fois, l'Église est née ici. Regardez ce qui se passe. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu. Donc ça, ce n'est pas les langues parlées, c'est les langues de feu. Hein, c'est ce qu'il dit. Des langues comme des langues de feu leur apparurent, séparées les unes sur les autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Donc ils étaient là, il y a des langues de feu qui se posent sur la tête des gens. Et regardez, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, ils parlent d'autres langues, au pluriel, d'accord ? D'autres langues. Verset 5, « Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. » Donc, il y a toutes ces nations qui sont réunies là, pour la Pentecôte, cette grande fête juive où tout le monde vient à Jérusalem. Verset 6, « Au bruit qu'il eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondu parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. » C'est intéressant ici le mot « dialectos » en grec, qui parle d'un dialecte. Ça veut dire que les gens entendaient des gens qui parlaient des choses compréhensibles dans leur propre dialecte. Ce qu'il dit. Verset 7, ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils tous pas des Galiléens ? Donc il est en train de dire, il y avait des Galiléens, ces Galiléens, juifs de Galilée, et tout d'un coup ils ont commencé à parler des langues, des dialectes que ces gens comprenaient venus d'autres pays du monde. Alors regardez ce qu'il dit au verset 8, et comment les entendons-nous ? Dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle. Donc là, c'est clair. Des Galiléens qui parlent une autre langue dans leur langue maternelle, aux ceux qui écoutent. Et maintenant, pour être vraiment clair, verset 9 nous donne les langues. Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Crétois et arabes, virgule, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? Ils affirmaient des merveilles de Dieu, et là, ça ne peut pas être plus clair, que ces gens entendaient ces Galiléens parler leur propre langue, dont les langues listées ici, la dernière étant l'arabe, donc c'est un très bon exemple, c'est qu'un Galiléen commence à parler l'arabe, et l'arabe qui est là se dit, c'est trop génial, j'entends le Galiléen parler les merveilles de Dieu en arabe. C'est ce qu'il dit au verset 11. Ils étaient tous en l'étonnement, ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci ? Mais d'autres se moquaient, disaient, ils sont pleins de vin doux. Bah ouais, t'as voir, il y a un Galiléen qui commence à parler en arabe. Ils disent, mais t'as voir, il a flippé ou quoi ? C'est normal. Et imaginez alors, tous ces gens qui parlent, ces 11, ou je crois qu'il y a 13 langues listées ici, tout le monde est en train de parler des merveilles de Dieu dans ces langues étrangères. Ben les gens, ils disent, là, il y a vraiment un truc, là on n'y comprend plus rien. C'est vraiment le chaos total, c'est ce qu'ils concluent. Ils concluent, ils doivent être sous. À quoi Pierre répond, mais attendez voir, il est 11h du matin. Pas être ivre. Alors c'est intéressant, verset 14, alors Pierre se présentant avec les onze, éleva la voix et leur parla en ces termes, et là il commence une prédication. Donc on voit que les langues, là, les langues qui ont été données, n'étaient pas un remplacement à la prédication. Donc ce texte nous décrit la première instance du don de langue, et le don des langues était donc la capacité donnée par Dieu de pouvoir parler les merveilles de Dieu dans une langue étrangère réelle que l'on n'avait pas apprise. Le don d'interprétation des langues, on le verra plus tard, était la capacité de pouvoir interpréter une langue étrangère réelle dans sa propre langue sans jamais l'avoir apprise. Alors ce que je trouve très intéressant avec Acte 2, c'est de constater que les charismatiques et les non-charismatiques, pour la plupart, écoutez bien ce que je veux dire, sont d'accord sur la nature du don des langues dans Acte 2. Charismatiques et non-charismatiques sont d'accord pour la plupart de conclure que le don des langues ici, c'est la capacité de parler des vraies langues sans pour autant les avoir apprises. C'est un miracle de Dieu. C'est vrai qu'il est difficile de donner ici une autre interprétation que celle-là, surtout avec les langues listées. Ok, première question. Donc, la nature des langues, ce sont des langues réelles. Deuxième question. Comment comprendre la progression du parler en langue dans le livre des Actes? Alors, il y a d'autres instances dans le livre des Actes. Allons-y, Acte 8, 14. Alors, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu. La clé ici, c'est le mot Samarie. Alors, qu'est-ce que vous savez entre les Juifs et les Samaritains? Est-ce qu'ils s'aimaient ou est-ce qu'ils ne s'aimaient pas trop? Ils se détestaient. Or, intéressant, l'évangile maintenant pénètre la Samarie. Acte 1, 8 nous dit que ça devait arriver. Alors les Samaritains reçoivent la parole de Dieu, donc ils se convertissent. Ils envoient Pierre et Jean. Alors Jérusalem dit, oulala, attends, ça chauffe là-haut. Il y a des Samaritains qui reçoivent Christ. C'est pas tout à fait comme ça qu'on l'a compris. Alors ils envoient Pierre et Jean pour vérifier ce qui se passe. Verset 15, ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Donc, ils ont reçu la parole de Dieu, conversion verset 14. Deuxième expérience ici, verset 15, ils reçoivent le Saint-Esprit. On est d'accord, on y reviendra aussi. Car ce n'était pas encore descendu sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Donc c'est le deuxième cas des langues qui se produit en Samarie. Les Juifs haïssent les Samaritains, ils étaient une race mixte, mais ils sont évangélisés et c'est vrai que c'est un peu compliqué d'évangéliser ton ennemi. Bref, c'est ce qui se passe ici. Ils se convertissent, ils reçoivent l'évangile, les apôtres sont envoyés pour confirmer que l'évangile avait bien pénétré les Samaritains. Et alors, à l'arrivée des apôtres, ils reçurent le Saint-Esprit. Alors, le texte ne le dit pas, mais moi je le présuppose qu'il est probable que les Samaritains ici aient parlé en langue. Et vous le verrez dans quelques instants, d'accord? Je pense qu'ils ont parlé en langue. Exactement de la même manière qu'il y a eu le parler en langue dans Acte 2 à Jérusalem. Pourquoi? Parce que les Juifs haïssaient les Samaritains. Il leur fallait une preuve concrète comme quoi ces Samaritains convertis faisaient aussi maintenant partie de l'Église. Si le même miracle a eu lieu chez les Samaritains qu'il y a eu à Jérusalem, il y a eu un lien direct et clair. Vous allez le voir encore plus clair dans Acte 10. Allons-y dans Acte 10. Regardez Acte 10. Après la Samarie, l'Évangile atteint le monde des gentils, donc des païens. Des Romains, disons, si on veut, d'accord? Et Corneille, c'est l'homme clé. Au verset 1, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille. Alors Corneille, c'est un Romain centenier de la cohorte dite italienne, donc ce qu'on appelle un païen ou un gentil. Verset 44, nous avons ceci. Comme Pierre, donc Pierre va, il y a une étude biblique, et tac, il se convertit. Il est dit au verset 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Voilà la clé. Ils se sont dit, mais c'est incroyable quoi. La parole de Dieu, l'évangile, perce les Juifs bien sûr, ensuite les Samaritains et maintenant quoi, les Romains, les païens, c'est incroyable. Ils se disent, mais ils sont étonnés que le don du Saint-Esprit soit répandu sur les païens, verset 46, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? La clé ici, c'est que le don des langues fait le lien, c'est un miracle donné par Dieu, fait le lien avec, ah, ce qui se passe ici, c'est comme ce qui s'est passé à Jérusalem. Donc, ça doit être de Dieu. Je ne sais pas si vous me suivez. Et on revoit cette même chose dans Acte 19. Là, c'est un petit peu différent, mais c'est pareil, c'est les disciples de Jean-Baptiste qui n'ont même pas entendu parler du baptême du Saint-Esprit, c'est assez intéressant. Au verset 1, « Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces d'Asie, arriva à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples, et leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Et lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. » Vous voyez, c'est très intéressant ce texte, ça montre que le livre des Actes est un livre transitoire. Le Saint-Esprit est venu, mais tout le monde n'a pas appris au même instant que le Saint-Esprit est venu. Ça va prendre du temps que les gens réalisent ce qu'est la doctrine du Saint-Esprit. Alors voilà, ça c'est des gens, ils sont sauvés de l'Ancien Testament. Ah bon, il y a le Saint-Esprit, on ne savait pas. Voilà, c'est ce qu'ils disent, verset 3, il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisé ?» Il répondit, « Le baptême de Jean, Jean-Baptiste. » Alors, Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire que celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus, sur ses paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et lorsque Paul leur a imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient donc environ 12 hommes. » Ils reçoivent le Saint-Esprit pour la même raison qu'avec Corneille. Il fallait que le même miracle se produise pour eux comme pour les Juifs à la Pentecôte pour prouver qu'ils étaient vraiment bien en Christ. Voilà, je voulais simplement qu'on regarde dans le livre des Actes les instances où il y a le parler en langue. On vient de les voir. C'est ça. Troisième question. Est-ce que les événements dans le livre des Actes, qu'on vient de voir, chapitre 2, 8, 10 et 19, devraient être considérés normatifs pour aujourd'hui? C'est une question capitale. Est-ce que ce qu'on trouve dans le livre des Actes est normatif? C'est-à-dire, quand j'étais en Inde, alors bien sûr, avec beaucoup de bonnes intentions, hein, je comprends, je crois qu'il y a beaucoup de gens, ils ne réalisent pas, mais ils ont pris acte 2, ils m'ont dit, John, écoute, acte 2 dit que tu dois recevoir le Saint-Esprit, tu dois être baptisé du Saint-Esprit et parler en langue. C'est ce qui s'est passé dans acte 2. Ben, ça paraissait cohérent. Donc c'est ce que j'ai fait. Mais est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste de faire ça? Est-ce que le livre des Actes décrit une norme? Est-ce que la norme, c'est conversion, réception du Saint-Esprit, langue? Est-ce que cette norme, elle est normative pour tous les temps? Réponse. La venue du Saint-Esprit dans Acte 2 était un événement unique dans l'histoire, comme pour la création du monde ou la crucifixion. C'est une chose unique. Ils sont arrivés une fois. Ils sont arrivés qu'une fois. Il fallait que le Saint-Esprit arrive à un moment donné. Jésus a dit, le Saint-Esprit va venir, il fallait qu'il vienne. Alors il est venu de manière permanente dans Acte 2. C'est comme ça que Dieu l'a fait faire. Le livre des Actes est un livre historique, qui veut dire qu'il explique tout simplement ce qui est arrivé à un moment précis dans l'histoire. En fait, on pourrait même dire que c'est un livre transitoire avec les évangiles, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. D'accord ? Il explique ce qui s'est passé. C'est un livre charnière. Les épîtres, en revanche, ont le but d'enseigner ce qui est normatif à toutes les générations qui suivent. Il y a une grande différence. Ça, c'est l'herméneutique. Hein. L'herméneutique, c'est l'étude sur comment étudier la Bible. C'est très important de comprendre les genres. Livre historique et une épître à deux buts différents. Alors, vous allez comprendre ceci. Si le livre des Actes est normatif pour toutes les générations, ceci pose un gros problème. Car il y a dans le livre des Actes 16 conversions, dont 3 seulement sont suivies par le parler en langue. Alors, quelles conversions deviennent normatives ? This is the question. Ben oui, alors on choisit ce qui nous arrange. Quelles sont les conversions normatives? Et si le livre des Actes est normatif pour toutes les générations, alors il faut se poser des questions pertinentes. Devrions-nous alors tirer au sort pour choisir nos anciens? Ben ça aussi c'est dans le livre des Actes. Devrions-nous tous vendre nos maisons et nos propriétés pour donner tout l'argent à l'Église? Ça aussi c'est dans le livre des Actes. Est-ce que notre ombre de 15 ne devrait-elle pas pouvoir guérir les malades lorsque nous passons dans la rue? Ça aussi, c'est dans le livre des Actes. Est-ce que les portes des prisons pour les gens persécutés pour leur foi ne devraient-elles pas toutes être ouvertes miraculeusement par les anges? Parce que ça aussi, c'est dans le livre des Actes. Est-ce que tous les Juifs ne devraient pas voir une grande nappe descendre du ciel avec des animaux impurs et entendre une voix qui leur dit « tue et mange » car ça aussi, c'est dans le livre des Actes. Et ne devrions-nous pas pouvoir guérir des gens avec des linges et des mouchoirs, comme Paul l'a fait, parce que ça aussi, c'est dans le livre des Actes. Vous voyez, ça pose un gros problème de considérer le livre des Actes comme étant normatif. Ou bien, on accepte le livre des Actes comme normatif, donc tout est vrai, ou non. Mais de choisir comme ça nous arrange, là, c'est un petit peu dangereux. Alors vous dites, mais si c'est pas normatif, à quoi sert le livre des Actes ? Le livre des Actes explique ce qui s'est passé. C'est tout. Voilà comment ça s'est passé quand le Saint-Esprit est venu. Voici les premières années de l'Église primitive. Voici comment ça s'est passé. La règle herméneutique est celle-ci. Écoutez bien. Si la chose est décrite dans le livre des Actes et également mentionnée et commandée dans les Épîtres, alors elle peut être considérée normative pour tous les chrétiens dans tous les âges. Si en revanche elle est décrite comme étant un événement unique dans l'histoire, dans le livre des Actes, sans qu'elle soit répétée dans une épître, elle n'est plus normative. Je vous donne un exemple. Regardez avec moi Actes 2, 41. Très simple. Là, on fait de l'herméneutique, c'est trop génial, d'accord ? C'est vraiment intéressant l'herméneutique, mais c'est très très important. Actes 2, 41 dit ceci. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Est-ce que le baptême est recommandé plus tard ? Oui, normatif. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement. Est-ce que l'enseignement est reconduit comme commandement ? Oui, bien sûr, dans toute la Bible. L'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain, la prière. Oui, toutes ces choses sont normatives parce qu'elles sont répétées dans les épîtres et aussi dans les évangiles. Mais regardez verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, et ils partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Est-ce que cet ordre, ce qu'ils ont fait, est répété comme un ordre dans les épîtres ? Non. Non. Donc, c'est ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas répétable comme un commandement. Voici la règle herméneutique. 4. Ça va ? C'est un peu technique aujourd'hui, hein ? Mais c'est intéressant, j'espère. Enfin, moi, je trouve intéressant. Allez, 4. Qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit ? Qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit ? Alors, il faut en premier noter que la phrase « baptême du Saint-Esprit » n'apparaît pas dans Acte 2. Dans Acte 2, 4, il est dit qu'ils furent remplis du Saint-Esprit. Dans Acte 2, l'arrivée du Saint-Esprit et sa plénitude est arrivée après la conversion de chrétiens réunis. Donc on peut dire en effet que dans Acte 2, il y a eu, comment dire, deux expériences en deux temps. Ça c'est vrai. Est-ce que c'est normatif ? Je ne pense pas. Alors il faut définir en premier ce qu'est le baptême du Saint-Esprit. On dit souvent, hein, c'est ce qu'on m'a dit, John, il faut te faire baptiser dans le Saint-Esprit. Alors j'ai consulté ma Bible et allez avec moi à 1 Corinthiens 12. Parce que là, on voit la définition du baptême du Saint-Esprit, pour être clair, d'accord ? 1 Corinthiens 12, et le verset 13. Et là, on a la définition biblique du baptême du Saint-Esprit. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Alors, le baptême du Saint-Esprit, selon cette définition biblique, est l'acte unique par lequel Dieu inclut le croyant dans son corps, l'Église. Ça, c'est la définition biblique du baptême du Saint-Esprit. Au moment de notre conversion, nous sommes baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Nous sommes miraculeusement et invisiblement intégrés dans le corps de Christ qui est l'Église. Ça arrive une fois à chaque chrétien au moment de sa conversion. Ça, c'est vraiment la définition biblique du baptême du Saint-Esprit. Alors, une deuxième, il y a beaucoup de choses qui arrivent hein, le moment où on se convertit. Dans 1 Corinthiens 6, 19, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit qui est en vous ? Alors, il parle à qui ? Bah, aux chrétiens. Alors, en plus, le moment où je me convertis, je deviens le temple du Saint-Esprit, qui veut dire que le Saint-Esprit rentre totalement en moi. Un chrétien a tout le Saint-Esprit. Nous sommes habités par le Saint-Esprit. Et ça, on le sait parce que Romains 8, 9, trop bien ce verset, nous dit ceci par rapport au Saint-Esprit. Romains 8, 9 dit « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. » Il dit « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Qui veut dire que le Saint-Esprit est forcément présent au moment de la conversion, parce que sans l'Esprit, on ne peut pas être chrétien. C'est clair. Est-ce qu'on reçoit tout le Saint-Esprit ou une partie du Saint-Esprit ? Soyons logiques. Tout. Comment il va se diviser ? Est-ce qu'on reçoit la moitié de Jésus-Christ ? Non. Tout le Saint-Esprit vient en nous. Mais alors, qu'en est-il de la plénitude du Saint-Esprit ? L'idée d'être rempli du Saint-Esprit ? Bonne question. Je savais que vous alliez la poser. Éphésiens 5, 18 nous dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Ça, c'est juste. La plénitude du Saint-Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit, est une réalité renouvelable chez le chrétien. Alors, ça ne veut pas dire que l'Esprit part et il revient. Non, c'est est-ce que nous laissons la place à l'Esprit dans notre vie ? C'est ça la question. Celui qui marche par l'Esprit ne fait pas fonctionner les œuvres de la chair. Ce n'est pas tout à fait ça. Donc, il ne marche pas dans les œuvres de la chair. Ben voilà. C'est-à-dire est-ce que je laisse totalement la place au Saint-Esprit ? Est-ce que la parole de Dieu en moi prend toute ma place ? Est-ce que mon péché, je le confesse régulièrement ? Je marche dans l'Esprit, je suis conduit, dirigé par l'Esprit qui résulte et se manifeste par le fruit de l'Esprit. J'ai souvent utilisé l'illustration de ma maison. Si vous rentrez chez moi, vous rentrez dans la porte d'entrée, il y a l'entrée. Puis il y a une porte pour le salon, une porte pour la cuisine, une porte pour les chambres à coucher, une porte pour les toilettes. D'accord ? Si toutes les portes sont fermées, si vous rentrez chez moi, est-ce que vous êtes dans ma maison ? Oui ou non ? Oui. Est-ce que vous avez rempli ma maison ? Non. Voilà. Alors pour remplir la maison, il faudrait que j'ouvre toutes les portes. Je dis, allez vous balader dans tous les placards, partout. Voilà ce qu'on ne veut pas parfois faire avec le Saint-Esprit. On dit, voilà, tu es en moi, mais cette porte-là, interdit, interdit, interdit. Ça, tu peux y aller, mais là, c'est interdit. C'est pas comme ça que ça marche, d'accord ? C'est tout ou rien. Et la plénitude du Saint-Esprit, c'est que l'Esprit prend toute la place dans notre vie. Alors, vous dites, ouais, mais John, dans Actes 2, lorsqu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, ça a été suivi par le parler des langues, le parler en langue. C'est vrai ? Ah, ben voilà, deux expériences. Conversion, Saint-Esprit, langue. Réponds. Ah d'accord, je réponds. C'est intéressant que dans Actes 4, 8, maintenant, deux chapitres plus tard, Pierre est de nouveau rempli de l'Esprit. Il a dit cela. Attends, on va regarder. Actes 4, 8. Je risque de ne pas pouvoir finir aujourd'hui, donc je vais ralentir, d'accord ? C'est pas grave, de toute façon, on a jusqu'au retour du Seigneur. Amen ? Voilà. Regardez, Actes 4, 8, c'est vraiment intéressant. Alors, Pierre, rempli du Saint-Esprit. Ah, alors là, vous dites, si le livre des actes est normatif, acte 2, ils ont été remplis du Saint-Esprit, ensuite ils ont fait quoi ? Ils ont parlé en langue. Alors ils y disent, voilà, donc il va parler en langue. Pas du tout. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés, etc., il commence à prêcher. Ah, alors là, la plénitude du Saint-Esprit a fait qu'il a donné un message super puissant. Et dans chapitre 4, 31, de nouveau, cette phrase apparaît. Lorsqu'ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils ont parlé en langue. Faux. Faux. Et ils ont annoncé la parole de Dieu avec assurance. Waouh ! Voyez-vous, la plénitude du Saint-Esprit a toutes sortes d'effets dans une vie. Dans chapitre 6, verset 5, il est dit que les diacres ont été remplis du Saint-Esprit pour servir dans l'Église. Et très intéressant, dans 7, 55, il est dit qu'Étienne fut rempli du Saint-Esprit et ensuite il est mort. Il est mort à la gloire de Dieu, rempli du Saint-Esprit à cet instant-là. Donc, voyez-vous, on ne peut pas rendre acte 2, 4 normatif en utilisant les autres instances du même verbe dans le livre des Actes. Si le parler en langue est l'expérience normative suite à la plénitude du Saint-Esprit, alors que faire avec la prédication, l'évangélisation, le service et la mort? Elle devrait l'être aussi. On devrait dire, ben voilà, si tu veux faire acte 2 normatif, tout le reste aussi. C'est un ou l'autre. Moi, je pense qu'il est excessivement dangereux, et je dirais même foncièrement erroné, de dire que le baptême du Saint-Esprit est décrit dans acte 2, que le baptême qui est décrit dans acte 2, que le baptême du Saint-Esprit suit la conversion systématiquement comme deuxième expérience, et que le parler en langue est la preuve du baptême du Saint-Esprit. Je pense que le livre des Actes décrit certes un événement qui est vraiment arrivé comme cela. Le Saint-Esprit est venu, il a eu ses premiers effets pour les raisons déjà évoquées, mais ce n'est pas quelque chose systématiquement répété et normatif comme on l'a déjà vu. 5. Y a-t-il deux parler en langue? Y a-t-il deux parler en langue? Alors voilà, donc on a défini selon acte 2 que les langues étaient la capacité de parler une langue étrangère connue sans l'avoir apprise. Et je dirais globalement, tous les chrétiens, moi je dirais, sont vraiment d'accord sur ce point quand on analyse ensemble acte 2. Globalement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de divergence sur ce point-là. Des langues réelles, étrangères, connues. Donc ça, c'est le premier parler en langue. Y a-t-il un deuxième parler en langue alors? Ce qu'on appellerait une langue incompréhensible entre Dieu et celui qui parle en langue. Une sorte de langage, et ça c'est ce qu'on entend souvent dans ces milieux, un langage angélique. Que je ne comprends pas, mais que je parle, donc je l'évoque avec mes lèvres, je ne le comprends pas, mais c'est un langage que Dieu comprend quand je l'évoque et moi je ne le comprends pas. Parce que si ce don des langues existe, ça veut dire qu'il y a deux dons des langues. Il y a un, les langues vraies, et l'autre, des langues angéliques. D'accord ? Alors, ce que je trouve intéressant, et ça c'était mon expérience aussi, mais je pense que dans beaucoup de mouvements charismatiques aujourd'hui, ce qui est de loin la norme dans le parler en langue, c'est bien l'idée d'une langue inconnue entre moi et Dieu, cette langue angélique. Ça c'est ce qui est pratiqué, je dirais, à 99% du temps, du moins c'est quand même l'impression que moi j'ai, c'est ce qu'on m'a moi dit. On m'a dit, John, voilà, fais-toi baptiser, tu vas prier en langue, une langue de prière angélique entre toi et Dieu. J'ai dit, super. Mais ils ont utilisé acte 2 pour me donner cette perspective. Et acte 2, c'est quand même clair que c'est des langues réelles. Alors, est-ce que c'est juste d'utiliser acte 2 pour dire ça? Voilà la question. Alors, s'il y a deux parler en langue, alors ça, c'est un gros problème herméneutique. Pourquoi? Parce que le mot pour les langues, dans acte 2, 4, c'est le mot glossa, qui est le même mot utilisé dans 1 Corinthiens 14, tout un chapitre consacré au sujet qu'on regardera aussi. Le mot glossa. Alors pourquoi est-ce que c'est important de le savoir? Eh ouais, parce que qui a écrit acte? Luc. Qui a écrit 1 Corinthiens? Paul. Quelle était la relation entre Paul et Luc? Meilleurs amis. Ils ont voyagé ensemble, des voyages missionnaires, des mois, des années ensemble. Alors, ce qui est étrange, c'est qu'il est fort doutable que Luc et Paul auraient utilisé le même mot pour décrire le phénomène du parler en langue avec une signification totalement différente du mot, sans pour autant préciser ces différences. C'est improbable. De plus, Luc était médecin. Il aimait les trucs clairs et précis. C'est intéressant. Luc a écrit Luc et Actes, un tiers du Nouveau Testament, par un gars, Luc. Super précis. S'il y avait eu confusion sur ce don, il aurait précisé cette confusion. Alors, peut-on lire 1 Corinthiens 14, qu'on va faire dans quelques instants, avec la compréhension que le don des langues bibliques est le parler de vraies langues et que justement l'église de Corinthe se faisait gronder par Paul dans 1 Corinthiens parce qu'ils utilisaient le don des langues mal. Justement, le problème à Corinthe, moi je pense, c'est qu'à Corinthe, ils étaient en train d'utiliser le don des langues mal, c'est-à-dire qu'ils utilisent, en fait c'est ce qui existe aujourd'hui, je pense qu'ils étaient en train de d'utiliser un sort de langage extatique, soi-disant angélique, et Paul Légronde leur dit « Non, ce n'est pas comme ça que vous devez faire le don des langues. Ça, ce n'est pas juste. Ce n'est pas ça le don des langues. » Moi, je pense qu'il les gronde ici. Et une lecture intéressante dans 1 Corinthiens 14, ça, vous le mettez, vous pouvez relire chez vous, d'accord ? C'est une thèse intéressante, je trouve. Chaque fois que le mot est au pluriel, langue au pluriel, il s'agit du vrai don des langues, acte 2. Et chaque fois que le mot est au singulier, il y a une ou deux exceptions par rapport à cela, il est probable que Paul est en train de faire une référence aux langues qui se pratiquaient à Corinthe, en sorte de charabia incompréhensible. Et il les gronde par rapport à cela. Alors, justement, allons à 1 Corinthiens 14. 6. Comment comprendre le don des langues dans 1 Corinthiens 14? Ça tombe bien, non? Quelle transition! Alors, si vous ne savez pas, 1 Corinthiens 14, c'est le chapitre sur les langues. D'accord? Alors, j'ai beaucoup parlé d'herméneutique, mais c'est très important. Il y a une règle herméneutique qu'il faut saisir. La voici. On interprète toujours le complexe par le simple. Je répète. On interprète toujours le complexe par le simple. S'il y a un truc dans la Bible qui est complexe, vous dites, ouh là là, je ne comprends pas très bien. Ça arrive, hein? Combien de fois est-ce qu'on lit la Bible, on se dit, ah là, je ne comprends pas trop. Alors, tu cherches quelque chose autre dans la Bible qui parle du même sujet, mais qui est clair. Et si c'est clair, tu dis, ah, alors si ça c'est vraiment clair, c'est probable que pour moi est complexe et lié à ce qui est clair. Et que je dois comprendre le complexe par ce qui est clair. Vous me suivez? Donc, dans acte 2, ce qui est clair, c'est que le don des langues, c'est la capacité de parler des langues réelles, miraculeusement, sans les avoir apprises. Alors, dans 1 Corinthiens 14, où ça donne l'impression d'être un peu plus complexe, lorsque le mot « langue » est au pluriel, comme dans acte 2, on peut se dire « bon, bah, alors c'est le vrai don des langues ». Lorsque « langue » est au singulier, on pourrait peut-être conclure qu'il est en train d'écrire un charabia, la langue inconnue et fausse qu'utilisaient les Corinthiens, que Paul gronde. Alors, deuxième règle, ensuite on va regarder ce chapitre. N'oubliez pas, le but d'un Corinthien, c'est que Paul les gronde. Il les gronde. Tout le livre d'un Corinthien. Tout ce qu'il fait, division, chapitre 3 et 4, les procès, chapitre 6, débauche, chapitre 7, mauvaise compréhension de la résurrection, bref, il les gronde. Il gronde cette église. D'accord ? Alors ça, c'est important, parce que quand on arrive à 1 Corinthiens 12, 13, 14, sur les dons spirituels, et surtout 14 sur le don des langues, il les gronde ici. Il leur dit, ce que vous faites, ce n'est pas bien. Alors, avec ça, regardez 1 Corinthiens 14, 1. Cherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui qui prophétie. Donc, il n'est pas contre les dons spirituels, Paul, hein, c'est important de le noter. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Alors voilà, ça c'est la première question. Comment répondre à ceux qui disent, ben voilà, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu. Donc John, voilà, c'est une langue, tu ne parles pas aux hommes mais tu parles à Dieu. Donc ça colle avec l'idée que les langues, c'est une langue étrangère qu'on ne connaît pas. Alors, deux possibilités. La langue, le mot langue est au singulier. Et très intéressant, lorsqu'il dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu. Alors, dans le grec, l'article n'est pas devant le mot Dieu, donc on peut tout à fait de manière juste traduire à un Dieu, qui voudrait dire que Paul est en train de les gronder. En effet, celui qui parle en langue, donc un charabia, ne parle pas aux hommes, mais à un Dieu, à un de vos supposés dieux, car personne ne le comprend, et c'est l'Esprit qui dit des mystères. Ensuite, il dit au verset 3, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et console. C'est intéressant, je trouve, comme interprétation. Alors, maintenant, supposons qu'il parle des vraies langues au verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Alors, il dirait, ben, lorsque je parle en langue, en arabe, si je parle en arabe, et je ne comprends pas ce que je suis en train de dire, ben, c'est précisément ce que je fais. Je suis en train de parler à Dieu en arabe, mais je ne comprends pas. C'est pour ça qu'il faut un interprète, c'est ce qu'il dira plus tard. Nos versets 27 et 28. Regardez verset 5 encore, il dit. Regardez verset 4 aussi. Regardez verset 4, il dit « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. » Alors, de nouveau, regardez ce qu'il est en train de dire. Le mot étant singulier. Donc, première possibilité, il est en train de dire « Ah ben voilà, c'est de nouveau le mauvais don des langues, le don des langues supposées, cette langue étrangère inconnue. » Alors, celui qui parle en langue, Corinthiens, c'est ce que vous faites, vous vous édifiez vous-même, vous pensez que « Waouh, super, je suis en train de parler en langue !» Mais vous n'êtes pas en train d'édifier l'Église. Il n'y a que vous qui pensez être édifié par ce supposé don des langues. Ça, ce serait la première compréhension de le voir. Et ce serait étrange que si Paul était en train d'encourager une prière personnelle, d'édification personnelle ici, c'est ce qu'on entend dire souvent, « Ah, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. » Donc, dans souvent des églises, on entend dire « Parlez en langue parce que vous vous édifiez vous-même, c'est une édification personnelle. » Le problème, c'est que tous les dons spirituels, ce n'est pas leur but. Leur but, c'est d'édifier l'Église. Alors, pourquoi est-ce que tout d'un coup, ici, Paul est en train de dire « Bon, mettez de côté le truc de l'Église, édifiez vous-même, allez-y. » Non, il est en train de les gronder ici, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. C'est l'opposé. Parce que cela voudrait dire que parmi tous les dons, ce serait le seul don spirituel qui n'aurait pas comme but édifier les autres, comme nous le disait 1 Corinthiens 12, 7. Non, ces dons doivent édifier l'Église. C'est pour ça qu'il met toujours en parallèle avec le don des langues ici, sans interprétation, la prophétie, la parole de Dieu proclamée, c'est ça qui édifie l'Église. Ce n'est pas un don soi-disant de langue personnelle. Et donc, je pense que Paul ici est en train de gronder les Corinthiens. Ils utilisent le mauvais don des langues pour s'édifier personnellement et à tort. Ce n'est pas le but des langues. Et moi, je vais vous dire aussi pourquoi je pense que ça. Regardez avec moi 1 Corinthiens 12, 1. Écoutez, c'est quand même incroyable de se dire ce qui se passait dans cette église. Corinthe, c'était vraiment une église intéressante. Regardez ce qui se passait dans le culte, pendant le culte. 12, 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez, lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. Donc, il est en train de décrire leur vie avant Christ. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Dans leur culte, il y a des gens qui se levaient. Alors apparemment, les gens, c'était vraiment un brouhaha. Les gens disaient n'importe quoi, n'importe comment. Il y en a qui se levaient. Il y en a qui, quelqu'un se levait pour dire « Ah, Jésus est maudit !» Et l'autre disait « Non, Jésus est Seigneur !»« Ah, Jésus est maudit !»« Ah, Jésus est Seigneur !» C'était une sorte de brouhaha. Et les choses se disaient comme ça. Il y en a qui rentraient avec leur manière d'adorer avant. Et c'était la confusion totale. Paul les gronde ici. Ils avaient amené leur monde dans l'Église, ils ne comprenaient ni la nature, ni l'utilisation des dons et langues. Encore 14, 5. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce denier n'interprète pour l'Église. Alors ça, c'est un verset qui est souvent utilisé par nos amis. Ils disent, voilà, je désire que vous parliez tous en langue. Alors, parlez tous en langue, puisqu'il veut que tout le monde parle en langue, ça donne l'impression que Dieu veut que tout le monde parle en langue. On est d'accord, non? Alors, réponse, moi je trouve géniale, 1 Corinthiens 7, 7. C'est ça la réponse. 1 Corinthiens 7, 7. Paul dit, contexte mariage et célibat, je voudrais que tous les hommes soient comme moi. Même structure grammaticale. J'aimerais que tous les hommes soient comme moi, célibataires, mais chacun tient à Dieu un don particulier, etc. Alors, question. Est-ce que ça veut dire que Dieu veut que tout le monde soit célibataire? Qu'est-ce que vous pensez? Les célibataires disent « Ah, enfin quelqu'un qui me comprend !» D'accord, super. Ah, ouais, ça, je comprends, d'accord. Non, écoutez, c'est clair que c'est pas. Alors, bien sûr, c'est un don, le célibat, et parfois, c'est simplement une attente jusqu'au mariage. C'est une frustration qu'il faut gérer jusqu'au mariage, on est d'accord. Mais Paul est en train de dire dans le contexte, moi, j'aimerais que tout le monde soit célibataire, parce que vous ne comprenez pas, un célibataire a du temps à consacrer au Seigneur qu'une personne mariée n'a pas. C'est trop bien les célibataires. Mais est-ce qu'il est en train de dire que c'est à la volonté de Dieu que tout le monde soit célibataire? Non. Et moi, je pense que la même structure grammaticale dans 1 Corinthiens 14:5 nous fait dire que Paul dit, voilà, il voit le bien fondé du juste. Regardez, langue, au fait, au pluriel, d'accord? Le juste parler en langue, bah, c'est très bien parce que ça apporte la parole de Dieu à ceux pour qui la langue est interprétée, pour qu'ils puissent comprendre et être édifiés. Donc il dit, c'est très bien le parler en langue biblique. Mais on sait très bien qu'il n'est pas en train de dire que tout le monde doit parler en langue. Et ça, on le sait, et je me rappelle... Ah ouais, en Corinthiens 12, 29, tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Quelle réponse cherche-t-il ici? Non. Bien sûr que non, tout le monde n'a pas tous ces dons. Donc c'est évident que dans 1 Corinthiens 14:5, il n'est pas en train de dire que tout le monde doit parler en langue. Voilà, ce que je suis en train de... Écoutez, c'est très technique, je comprends. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que on est tous coupables de cela, moi aussi. Hein. On peut très facilement prendre des versets qui nous arrangent avec des réponses simples. J'ai déjà souvent fait, j'admets. Mais on doit être plus rigoureux bibliquement, je pense. Et avant de lancer des versets, voilà, moi je vais vous donner un exemple, d'accord ? Je puis tout par celui qui me fortifie. Combien de fois, surtout dans ma vie chrétienne, je lançais ça à quelqu'un. Ouais, je suis dans l'épreuve. Tiens, mais tu peux tout faire en Christ qui te fortifie. Allez, vas-y. Ouais, mais tu sais, j'ai vraiment la peine avec ma belle-mère. Mais écoute, Philippiens 4:13, tu peux supporter ta belle-mère avec ce verset. Alors, ok, super, génial, mais est-ce que c'est le but du verset? Non, c'est l'argent le contexte. C'est l'argent. Il dit, voilà, que j'ai beaucoup d'argent ou peu d'argent, ben je peux tout faire avec Christ qui me fortifie. C'est le contexte précis et juste. Donc, on est tous un petit peu faciles à lancer des versets. Voilà, je suis en train simplement de dire, ben, quand vraiment on analyse, il faut être rigoureux. Rigoureux par rapport à ces choses. 7. Enfin, c'est pas impossible que la semaine prochaine, je termine les deux. Je peux encore faire miracle et guérison la semaine prochaine, peut-être en plus, d'accord? On va voir. Regardez, c'est très intéressant. Alors ça, c'est un autre argument qui est souvent utilisé. Ils disent, ouais, mais John, le parler en langue, c'est quand même une langue angélique. La Bible dit. 1 Corinthiens 13, allez-y avec moi. 1 Corinthiens 13. Alors voilà, verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges. On s'arrête là. Trop génial. Waouh, on peut parler la langue des anges, les amis. Et donc, en parlant langue, c'est normal que je ne comprends pas. Parce qu'il dit, je parle la langue des hommes, premier point. Deuxième point, des anges. Donc, il y a deux types de langues. Les hommes, je comprends. Les anges, je ne comprends pas. Donc, quand je parle en langue, c'est une langue angélique, incompréhensible. Ça colle avec l'argument. Évident. Alors, comment répondre? Autre règle herméneutique. Contexte. Contexte hyper important. Regardons le contexte maintenant. Lisons ces versets. Paul dit. Alors, n'oublions pas. Il est en train de gronder les Corinthiens. Hein. Il les gronde. Regardez ce qu'il dit. Je vais lire, ensuite je vais faire des commentaires. Paul dit. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don des prophéties, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Et là, il commence ces versets très connus. L'amour est patient, il est plein de bonté, etc. Alors, écoutez, le contexte est la clé pour comprendre. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Il les gronde. Il les gronde par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'il manque dans cette église à Corinthe? L'amour. L'amour. Il les gronde par rapport à l'amour. Donc il fait un contraste. Maintenant avec ça, regardez ce qu'il dit. C'est une figure de rhétorique qui s'appelle l'hyperbole. L'hyperbole, regardez, l'exagération, regardez ce qu'il dit. Paul dit, quand je parlerai les langues des hommes. Alors on s'arrête juste là. Je vous pose une question. Est-ce que Paul parlait les langues des hommes? Est-ce que Paul parlait toutes les langues de tous les hommes? Oui ou non? Non. C'est clair. Et des anges. On revient tout à l'heure à ça. Si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. Il dit voilà, si je peux parler, si je suis un multi polyglotte et que je connaisse toutes les langues du monde, mais si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Donc l'amour est plus important que même de connaître toutes les langues du monde. 2, verset 2. Quand j'aurai le don des prophéties, est-ce qu'il avait? Peut-être. Probablement. Il avait une révélation directe. Continue. La science de tous les mystères. Alors, laissez-moi vous poser une question. Est-ce que Paul avait la science de tous les mystères? Oui ou non? Non. D'accord. Et toute la connaissance. Est-ce que Paul avait toute la connaissance? Est-ce qu'il l'avait? Non. Qui a toute la connaissance? Dieu. Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. Est-ce que Paul a transporté les montagnes par sa foi? Oui ou non? Non. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Continue. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres. Est-ce que Paul a distribué tous ses biens pour la nourriture des pauvres? Oui ou non? Ben, pas qu'on sache. Il fabriquait des tentes. Donc apparemment, il avait au moins une tente, je pense. Donc je ne pense pas qu'il a tout donné. Est-ce qu'il a donné tous ses vêtements? Je ne pense pas. Si je livrerai mon corps pour être brûlé. Est-ce que Paul a livré son corps pour être brûlé? Non. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Vous voyez ce qu'il est en train de faire ici? Paul est en train d'exagérer. C'est de l'hyperbole. C'est une figure de rhétorique. Il est en train de décrire les choses les plus extraordinaires qu'un homme peut faire et dire toutes ces choses, même si on pouvait les faire, si tu n'as pas l'amour, c'est nul. Et inclus dans ces choses exagérées sont le langage des anges. Quand je parlerai les langages des hommes et des anges, hyperbole, exagération. D'utiliser ce verset, je pense, pour préconiser que le parler en langue est une langue angélique, très dangereux. Très, très dangereux. Et dernière chose, regardez Ecclésiaste 6, 3. Autre exemple de cette hyperbole. Ecclésiaste 6, 3. Quand un homme aurait 100 fils, vivrait un grand nombre d'années, et que les jours de ses années se multiplient, si son âme ne s'est point rassasiée de bonheur, et si de plus il n'a point de sépulture, je dis qu'un avorton est plus heureux que lui. L'exagération, il dit, voilà, si t'as même 100, si t'as 100 enfants. Non, l'avorton est plus important que toi, plus heureux que toi. Verset 6. Et quand celui-ci vivrait 2 fois 1000 ans, sans jouir du bonheur, tout ne va-t-il pas dans le même lieu? D'ici, un homme pouvait vivre 2000 ans. Est-ce qu'un homme peut vivre 2000 ans? Non. Exagération. Donc, vous voyez, c'est une figure de rhétorique, c'est quelque chose qui se passe dans la Bible où il y a de l'exagération pour faire un point, souligner un point. Et donc, moi, je maintiens ma thèse. Pour comprendre le complexe, il faut aller au simple. Pour comprendre en Corinthiens 14, il faut aller à acte 2. Acte 2, c'est clair. Un don miraculeux de pouvoir parler des langues d'hommes non apprises et pas une langue inconnue, étrangère, angélique, entre moi et Dieu. Alors, on n'a fait que 7 questions sur 14. Je vous lis les questions juste pour vous mettre l'eau à la bouche. D'accord? Les prochaines questions. Allez, je vous lis les questions. D'accord? Vous êtes d'accord? Regardez. 8. Ah, parfait. C'est parfait. Le timing était parfait. Le parler en langue n'est-il pas un soupir inexprimable de l'esprit en moi, selon Romains 8, 26? 9. Quel était le but du parler en langue? 10. Dans quel sens le don des langues dans Actes 2 était-il un signe de jugement pour les non-croyants? 11. Y avait-il des règles prescrites pour le parler en langue dans l'Église? 12. La Bible n'enseigne-t-elle pas la fin du parler en langue? 13. Qu'en dit l'histoire de l'Église sur le parler en langue? Et 14. Comment comprendre le mouvement moderne du parler en langue? Écoutez, vraiment, j'espère ce matin que vous voyez mon cœur. Hein. Je ne suis pas du tout là pour casser, ce n'est pas du tout mon intention. Hein, comme je dis, hein, moi c'est, j'apprécie beaucoup mes frères charismatiques. On s'entend, j'ai beaucoup d'amis charismatiques. Ils aiment le Seigneur à fond, comme j'ai déjà dit. Donc, mais j'essaie de comprendre. On est dans une série sur les dons spirituels, donc j'essaye de comprendre la parole de Dieu. Alors bien sûr, notre confession de foi est claire hein, sur ce que nous croyons. Donc je pense que vous êtes venus ici ce matin. Si vous connaissez un peu notre Église, vous saviez la direction qu'on allait prendre. Mais je le fais vraiment avec beaucoup d'amour et beaucoup d'humilité. Peut-être que je me trompe sur certains de ces points. Bien sûr, on ne va pas dans tous les détails. Alors il y a peut-être des choses que j'oublie, que je saute. Je comprends, je veux bien dialoguer avec vous. Et je vous dis déjà, peut-être que je ne pourrais même pas répondre à votre question. D'accord ? Mais on va regarder la parole de Dieu ensemble et essayer de s'y retrouver. Amen. Voilà, bah écoutez, on va prier. On a un repas qui nous attend. Est-ce qu'il y a encore... Ce serait bien de chanter. On peut faire un chant avant de... Il y a un chant prévu ? Super, d'accord. Bon, on va juste prier en premier, d'accord. Seigneur, merci pour la Bible. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Voilà, c'était très, très technique. Mais en même temps, c'est la parole de Dieu. Seigneur, tu nous as donné un livre. Pourquoi est-ce que tu t'es révélé ainsi ? Pourquoi est-ce que tu nous as donné ton Fils, mais ensuite... les écrits, un livre inspiré. Parce que tu veux qu'on l'étudie et qu'on utilise notre intelligence. Seigneur, c'est vrai, moi j'avoue, moi je suis le premier à avoir peur, Seigneur, parce que moi je veux vraiment comprendre. C'est tout ce qu'on veut, on veut comprendre. On veut comprendre ce qui est juste. Donc nous te demandons ton aide, Seigneur. Moi, je te remercie pour toutes les églises à Genève qui prêchent l'Évangile. Ok, on a peut-être des différences sur un point ou un autre. Seigneur, c'est l'Évangile qui sauve. C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est son sacrifice, sa résurrection. Et voilà, c'est ce que je te prie. Peut-être quelqu'un ici ce matin est arrivé ce matin et se dit, mais attends, dans quoi je suis tombé là? Oh Seigneur, il n'y a que toi qui peux prendre le message d'aujourd'hui et l'appliquer à un cœur qui est en recherche. Toi, tu peux le faire. Tu connais nos besoins chacun. Tu connais nos passages difficiles dans la vie, tu connais nos joies. Seigneur, merci parce que c'est toi qui nous portes. C'est toi qui nous aides. Seigneur, nous voulons te louer et t'adorer. Te dire que nous t'aimons et nous te remercions pour tes bienfaits à notre égard. Seigneur, on te remet cette ville. Tu l'as à cœur. Je sais qu'il y a tellement de gens qui cherchent Christ aujourd'hui, qui cherchent une solution à leurs problèmes. Heureusement qu'il y a beaucoup d'églises à Genève. Il en faut encore beaucoup, Seigneur. Plus d'églises, beaucoup plus d'églises. Parce qu'une église ne peut pas faire tout le travail, ce n'est pas possible. Oh Seigneur, multiplie les églises et multiplie des prédicateurs, des enseignants, des évangélistes, des hommes et des femmes et des enfants qui auront le courage d'annoncer la bonne nouvelle à ceux qui recherchent cette bonne nouvelle. Seigneur, merci pour le repas qui nous attend. Bénis nos conversations, encourage-nous mutuellement, Seigneur.